La tête.
Au menu de notre club cet après-midi, les secrets d'un chanteur d'opéra pour poser sa voix, une bande dessinée sur la fin de vie et une exposition sur les musiques de l'Antiquité. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À l'une de la science aujourd'hui, un jeu de construction nanométrique prometteur, paraît-il.
Oui, aujourd'hui, on va fabriquer des oursons, sculpter des lapins et même dessiner la Joconde avec de l'ADN. Le biophysicien Gaëtan Bello vous explique sa technique dans un instant.
C'est Fanny Bouillon qui réalise notre club aujourd'hui, préparé par Dylan Beiner, Thomas Lehété et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Villard sur France Inter.
Et je salue les invités du club cet après-midi, Sybille Emery, Jean-Philippe Lafont et Xavier Bétaucourt. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Jean-Philippe Lafont, vous êtes chanteur lyrique, tessiture baryton et vous publiez avec voix et éloquence aux éditions Larousse. Vous allez nous donner quelques clés pour mieux utiliser notre voix, bien la placer, respirer au bon endroit.
Vous avez presque tout dit.
C'est
là.
Ça, hein.
Oui, oui, respirer surtout au bon endroit, oui. Ouais. Et puis, quelques basiques, je dirais, venues de consonnes bien articulées.
C'est ça.
Le respect de la ponctuation, des silences qui font tellement peur.
Mm-hmm. Les silences font tellement surtout peur. Surtout en radio, d'ailleurs. Hein.
Oui, oui. Oui. Bah oui, dans la mesure où les gens ne vous voient pas, donc ils peuvent
c'est
dire
qu'il
y a un problème
que
technique.
Que se passe-t-il
autre,
sur la ligne
sûr, bien sûr. Mais enfin, quoi qu'un silence, ça s'emplit aussi.
Oui, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Vous êtes également devenu coach, hein, coach vocal, entre autres pour le président Emmanuel Macron qui a fait appel à vos services lors de la campagne pour la présidentielle. Sybille Emery, vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Musique Écho de l'Antiquité qui est à voir en ce moment au musée du Louvre-Lens. Alors c'est une exploration des musiques de l'Antiquité avec des sons et des instruments reconstitués. C'est un travail colossal hein, que vous avez fait là.
Oui, alors on peut voir effectivement des instruments de musique, entendre quelques-uns d'entre eux, mais c'est surtout l'idée de montrer l'importance de ces patrimoines musicaux de l'Antiquité et toutes les traces archéologiques qu'ils nous ont laissées qui vont bien au-delà des instruments de musique, puisque ça concerne aussi l'iconographie ouais. Et les textes.
Et on va écouter ensemble tout à l'heure quelques instruments ou mélodies. Et puis enfin, Xavier Bétaucourt, vous êtes le scénariste d'une bande dessinée qui s'appelle « Quelques jours à vivre », publiée chez Delcourt avec les illustrations d'Olivier Perret. Étonnante idée, puisque c'est une plongée dans une unité de soins palliatifs et c'est un documentaire dessiné.
Oui, c'est un documentaire, c'est une immersion dans ce service de soins palliatifs. En fait, ça raconte la vie dans ce service et après, par extension, ça raconte aussi notre rapport à la mort.
Ouais, très beau travail qu'on va découvrir avec vous dans quelques minutes et
merci.
Puis avec les auditeurs qui nous rejoignent également, les questions et les messages autour de tous nos sujets, franceinter.fr. Voici venue la nanoconstruction de précision. C'est une discipline qui pourrait révolutionner bien des domaines. Cette semaine, la revue Nature publie simultanément 4 articles émanant de plusieurs équipes dans le monde qui démontrent les étonnantes possibilités justement offertes par la nanoconstruction à base d'ADN. Ici, un petit ourson, vous le disiez, Axel tout à l'heure, un sablier ou encore le visage de la Joconde. Le tout 1 million de fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et c'est un exploit technique et technologique que nous commentons avec notre invité, Axel.
Oui, pour en parler, on est en direct de France Bleu Héros avec Gaëtan Bello. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes biophysicien pour l'INSERM à l'Institut Génomique Fonctionnel à Montpellier. Vous êtes le seul chercheur français à travailler sur ce domaine des nanoblocs d'ADN. Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous jouez au Lego avec de l'ADN ?
Oui, voilà, on peut essayer de vulgariser ça comme ça en disant que on fait de la construction à partir comme du Lego, le même principe. Physique, on envoie des briques de Lego. Donc nous, c'est des briques d'ADN,
d'accord,
qui miment la forme d'un Lego pour faire de la construction en 3D à l'échelle du nanomètre. Voilà.
Parce qu'on entend beaucoup parler de nanotechnologie avec du carbone, avec des nanotubes, mais ça, la balle d'ADN, on en entend très peu parler. Ça fait longtemps que ça existe ?
Alors, oui, c'est vrai que quand on parle de nanotechnologie, souvent on fait référence aux nanotechnologies à base de carbone, ce qui est une des les premiers types de nanotechnologies qui ont émergé dans les années 90. Du coup, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus, alors que les nanotechnologies à base d'ADN sont beaucoup plus récentes. On va dire que c'est début 2000, où il y a eu les premières études faites où on utilise l'ADN comme matériau pour construire des petits objets à l'échelle du nanomètre.
Combien de briques d'ADN dans les objets que vous créez ?
Donc là, on va dire le gap technologique sur cette étude, c'est le nombre de molécules qu'on utilise pour former les objets. Et là, on arrive à 30 000 molécules uniques qui sont auto-assemblées pour faire un objet en trois dimensions.
Ça veut dire que c'est pas vous qui assemblez les 30 000 à la main ?
Non, ça c'est le gros avantage des nanotechnologies d'auto-assemblage, c'est-à-dire que le travail est fait par les phénomènes d'auto-assemblage et pas par nous. on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est ces 30 000 unités vont trouver leur partenaire parce qu'elles ont été programmées pour reconnaître chacun des partenaires dans la solution que nous avons qui contient ces 30 000 unités et vont s'auto-assembler spontanément par des effets coopératifs dans une forme 3D. Et ça en quelques heures. Alors par exemple, si maintenant on prend un baril de Lego où on met 30 000 petites briques de Lego et qu'on demande à quelqu'un de d'assembler ces 30 000 pièces pour faire un cube, ça va prendre plusieurs mois à temps plein. Donc là, on voit que les phénomènes d'auto-assemblage sont hyper puissants, dans le sens où le temps est considérablement réduit dans la fabrication d'objets. Donc là, cet objet qui est auto-assemblé sera produit en milliards d'exemplaires spontanément.
Alors, expliquez-nous, parce que pour ceux qui découvrent votre domaine de recherche, tout ça paraît un petit peu obscur quand même. À quoi ça sert justement de jouer au Lego nanométrique comme ça ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Parce qu'on parlait des oursons tout à l'heure. D'autres équipes travaillent par exemple sur le visage de la Joconde. Mais ça sert à quoi de fabriquer ces objets à cette échelle-là exactement ?
Donc si... L'idée, c'est dans notre évolution, si on prend un peu de recul par rapport à notre évolution, donc l'évolution humaine, on a commencé par faire des objets plutôt de l'ordre du mètre pour cultiver, pour chasser, et plus au cours du temps, on a de plus en plus miniaturisé les objets qu'on était capable de faire pour faire des moteurs, pour faire des montres avec l'échelle du millimètre. Et jusque dans les années 1900, on est arrivé à l'échelle du micromètre, où là, on fait de la microélectronique pour faire des ordinateurs. Ça augmente d'un point de vue technologique en fonction de l'échelle. Et aujourd'hui, le chaînon manquant est entre le micron et l'atome, et c'est le nanomètre. Donc là, aujourd'hui, l'un des gros défis, c'est de pouvoir façonner des outils qui ont une échelle du nanomètre. Et ceci va nous permettre d'étudier, par exemple, des cellules humaines, enfin des cellules en général, parce que nos outils auront une taille comparable à une cellule.
On a souvent parlé de stocker de l'information sous forme d'ADN. C'est un exemple qui marche pour vos travaux ?
Plus ou moins indirectement. C'est sûr que l'ADN en tant que matériau a plusieurs caractéristiques extrêmement intéressante. D'un point de vue mécanique, déjà, c'est hyper résistant. C'est-à-dire que on peut chauffer l'ADN à plusieurs au-delà de 100 degrés et la molécule reste intacte. On peut la mettre sous pression à plusieurs centaines de bars et la molécule reste aussi intacte. Et au cours du temps, on voit que cette molécule est stable. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver de l'ADN de mammouth fossilisé dans des glaces. Et si maintenant on projette, on vitrifie par exemple une molécule d'ADN dans du verre, son espérance de vie est au-delà de plusieurs millions d'années. Donc ce qui est pour stocker de l'information est un matériau de premier choix, dans le sens où aujourd'hui si on a un DVD par exemple, on a nos photos sur un DVD qu'on laisse sur la table. D'ici 10-20 ans, le DVD sera obsolète. alors qu'avec de l'ADN, donc on va devoir restocker ces informations, trouver de l'énergie pour stocker et conserver ces informations pendant de nombreuses années. Alors qu'avec de l'ADN, si on pouvait convertir, et c'est ce qui est maintenant c'est effectif, on peut convertir l'information numérique dans de l'ADN.
Et un secteur très prometteur, puisqu'on le disait tout à l'heure avec Axel, c'est l'objet de 4 publications cette semaine dans Nature, avec très peu d'équipes, hein, vous êtes je crois simplement une dizaine dans le monde entier à travailler, en tout cas sur ces technologies nanométriques qui vont donner, en tout cas à l'avenir, beaucoup de perspectives et d'applications. Gaëtan Bello, merci beaucoup pour vos explications, et merci aux équipes de France Bleu Héros qui nous ont permis ce duplex. Axel, merci, à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, vers la création d'un office français de l'intégrité scientifique, alors que le monde de la recherche souffre d'une augmentation depuis 10 ans des pratiques douteuses, voire illégales, le Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur met en place des outils de lutte. Un directeur pour le futur office est en cours de recrutement, et lui et ses équipes auront donc la charge de lutter contre la part grandissante de plagiat, de falsification et autres manipulations de la science publiée. Quelle alternative au glyphosate, alors que le gouvernement annonce l'interdiction de l'herbicide d'ici 3 ans, l'Institut national de la recherche agronomique planche sur les alternatives possibles pour les agriculteurs. Dans un rapport rendu cette semaine au gouvernement, les experts montrent que des solutions existent déjà pour détruire les mauvaises herbes sans l'aide de la chimie. Le désherbage mécanique, le recours au labour ou au mulching, cette technique consistant à recouvrir le sol d'un tapis végétal pour étouffer la pousse des plantes non désirées. Mais ils admettent, du côté justement de ce rapport, que pour certains agriculteurs spécialisés, la transition vers une agriculture sans herbicides nécessitera encore des travaux de recherche. Et puis observer des dégâts, des éclipses étudiées dans les yeux, des médecins d'un hôpital new-yorkais spécialisé en ophtalmologie apportent un espoir de traitement contre la rétinopathie solaire aiguë, plus communément appelée aveuglement solaire. Cette pathologie ne possède toujours pas de traitement convaincant. Les chercheurs ont profité de l'éclipse d'août dernier pour tester une technologie de pointe, jusqu'alors jamais utilisée. Elle est appelée l'optique adaptative. Ils publient aujourd'hui la structure microscopique des lésions de l'œil d'une patiente partiellement aveuglée après avoir observé le soleil sans protection. Des résultats nouveaux qui permettront peut-être le développement dans le futur de traitements d'urgence spécifiques pour les lésions solaires de la rétine. Et c'est le club dans un instant. Et c'était Catherine.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, les secrets d'un chanteur d'opéra pour poser notre voix, une bande dessinée sur la fin de vie et cette exposition sur les musiques de l'Antiquité au Louvre-Lens et bien sûr vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Jean-Philippe Lafont, on va commencer avec vous. Vous avez été chanteur d'opéra, tessiture baryton et aujourd'hui vous prodiguez vos conseils pour transmettre justement les bonnes techniques pour poser sa voix. Vous êtes l'auteur de ce livre Avec voix et éloquence qui est sorti aux éditions Larousse et qui raconte à la fois votre carrière, vos grands rôles, votre passion également pour la langue française et les techniques de travail pour la parole et le chant. Comment est-ce que d'abord vous avez découvert que vous aviez une voix pour chanter quand vous étiez tout jeune ?
C'était dans les vestiaires à Toulouse du club de rugby.
Nous gagnions... C'est pas vraiment l'endroit où on chante du lyrique à l'habitude.
Non, mais c'est un endroit quand on gagne souvent, ou presque toujours, comme c'était le cas. On est très très heureux et on le fait savoir sous les douches, on fait un peu n'importe quoi, on s'extériorise d'une façon un peu extraordinaire, on déborde beaucoup, hein, et puis on se fait entendre par un monsieur qui passe, qui est directeur à la scène du théâtre du Capitole.
Et il passe dans les vestiaires des rugbymen.
Non, il passe dehors parce que la voix était suffisamment projetée, suffisamment tonitruante pour être entendue au-delà des douches. N'est-ce pas ? Et puis il demande qui c'est ce type qui gueule comme ça, avec une voix assez exceptionnelle.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Bon, j'avais 19 ans.
19 ans. Voilà. Et donc vous auriez pu être rugbyman ?
Professeur d'éducation physique, déjà.
Ce que vous avez fait, après ?
Oui, bien entendu. Non, rugbyman, non, parce qu'à l'époque, c'était pas professionnel. C'était tout à fait amateur. Ouais. Je préférais, d'ailleurs. Le professionnalisme a détruit pas mal de choses, notamment dans ce sport-là. Voilà, donc je vais au conservatoire de Toulouse, je leur chante maintenant, que vais-je faire, Becco, et ils sont tous surpris, moi pas. Je ne savais pas ce que ça voulait dire que d'avoir une voix exceptionnelle.
Alors, qu'est-ce qui fait justement que vous soyez allé du côté du lyrique et pas de la variété comme Becco ou du jazz?
Parce que je rencontre ce jour-là Denise Duplex, qui est un professeur, professeur de chant absolument exceptionnel, avec laquelle je continue à travailler 46 ans après. J'en parle beaucoup dans le livre, d'ailleurs.
Vous dédiez ce livre.
Et puis elle dit à mes parents, il faut qu'il suive cette voie VOIE là, parce que je pense qu'il sa vie est là.
Ouais. Et depuis, vous avez chanté dans les plus grands opéras du monde, avec les plus grands interprètes et les plus grands rôles du répertoire, jusqu'en septembre 2016, où votre carrière s'arrête, mais brutalement, par un accident totalement idiot.
Sur Tosca, l'opéra Paris-Bastille, je chute de 18 marches sur la tête à la renverse, enfin, c'est affreux, quoi. C'est un accident lourd de conséquences.
C'est vrai.
Et voilà, j'ai reçu avant-hier le résultat de la Sécurité sociale. Je suis reconnu quand même à 61% de séquelles physiques.
Donc,
pas mal.
Donc c'était terminé pour la scène.
C'est terminé, la voix est encore là.
Ah ben ça s'entend.
Peut-être mieux qu'avant même.
On l'entend, hein. Mais il y a de l'écho dans le studio.
C'est vrai que j'ai des difficultés à monter un escalier, descendre, faire un mois de répétition, c'est plus possible. Ouais. Quoi.
On va vous écouter, Jean-Philippe Lafont, parce qu'on a envie d'entendre aussi cette voix chanter, Les Pèlerins de la mer de Gluck avec l'air de Vertigo. Et c'est tout de suite sur France Inter.
Comme fille d'autrefois, les fameux promettaient à l'oreille pétronée, des robes sont flambeaux. À l'oreille pétronée, des robes sont flambeaux.
Voilà, Les Pèlerins de la Mecque, et non pas de la mer, Gluck, l'air de Vertigo, et c'est vous cette voix, Jean-Philippe Lafont. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement après cet accident ? Il a fallu complètement changer de voix précisément là aussi.
Il s'est passé un moment très très difficile parce que c'était, je savais plus où aller, quoi. Ouais. Il a fallu assumer déjà
l'interruption de carrière brutale.
Et réfléchir. J'avais 65 ans, un peu plus. Il fallait quand même qu'on continue à s'activer.
Ouais.
Vous savez, j'étais toujours, depuis 40 ans, 43 ans, j'étais dans le domaine du vocal, j'y suis resté, et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de passer le témoin aux jeunes générations.
Et là, de réfléchir, de mûrir un peu plus justement, finalement, cette technique que vous aviez quasiment spontanément, et là, d'en faire quelque chose à transmettre.
C'est ça, réfléchir, parce que adapter une technique à soi-même, bon, c'est une chose, mais la proposer à d'autres qui n'ont pas nécessairement les mêmes défauts que vous, il faut l'adapter au cas qui se présente à nous, à moi en l'occurrence, et puis faire en sorte que la personne ou les jeunes comprennent ce que l'on dit, parce que le meilleur professeur du monde, c'est pas le meilleur coach, c'est
oui, eux-mêmes, alors c'est ça.
C'est eux-mêmes, il faut qu'ils adaptent ce que nous-mêmes avons essayé de réfléchir pour leur adaptation.
Ouais.
Il y a deux adaptations simultanées ou qui se suivent.
Et le meilleur chanteur du monde n'est pas forcément non plus le meilleur professeur.
Non, ça c'est sûr.
Parce que c'est compliqué d'être un bon pédagogue de la voix,
oui,
justement.
Parce qu'il y a eu...
Moi, sans emmener les
élèves. J'ai connu des chanteurs exceptionnels qui n'avaient jamais eu le moindre problème. Et de ce fait, il n'avait pas nécessairement réfléchi aux problèmes que d'autres pouvaient avoir.
Sybille Emery, vous souhaitez réagir?
Oui, non, en fait, je suis impressionnée par une vocation qui commence finalement après 19 ans. Et je voulais vous poser la question, mais combien de temps il faut justement pour avoir une vraie voix d'opéra? Parce que c'est vraiment une voix qu'on travaille beaucoup. Combien de temps, vous, ça vous a pris? Ou quand un élève vient vous voir, vous...
À 19 ans, la voix est terminée? Elle a mué totalement?
Non, la voix n'est jamais terminée. La voix évolue toujours. Comme l'intelligence, comme le corps qui évolue, et pas toujours dans le bon sens, d'ailleurs. Ça dépend des voix. Un soprano léger, à 19-20 ans, est plus à même de commencer une carrière qu'un baryton ou qu'une basse, qui doit attendre que la
maturité aussi
s'assombrit, se mature. À 20 ans, on peut pas jouer les pères. Une petite à 20 ans peut jouer les filles, les petites filles, les jeunes filles. Voilà. Donc ça, c'est au cas par cas. Je veux dire, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'avais 23 ans. J'ai commencé par des rôles Papageno, en l'occurrence, un rôle de jeune, n'est-ce pas? Bon, et ça, c'est la grande intelligence aussi de rencontrer la personne. Ou les, mais pas beaucoup, personnes qui vont vous guider.
Sans vous faire prendre de risques aussi.
Et sans prendre trop de risques, et même pas du tout d'ailleurs. Ouais. Et moi j'ai eu la chance, cette chance merveilleuse, de rencontrer Denise Duplex. Voilà.
Xavier Bétoncourt.
Ouais, il faut avoir obligatoirement une voix exceptionnelle pour ensuite pouvoir apprendre, ou est-ce que l'apprentissage peut permettre d'acquérir une voix un peu exceptionnelle?
Il ne faut pas avoir une voix nécessairement exceptionnelle pour transmettre. Il faut avoir, je crois, la volonté exceptionnelle de transmettre. Il faut avoir la volonté exceptionnelle de réfléchir, de se rendre compte des difficultés rencontrées en nous-mêmes ou dans les autres qui viennent à vous et qui vont vous faire confiance, n'est-ce pas? Non, vous savez... Il y a peu de gens vraiment très très exceptionnels, en définitive. Et les gens très exceptionnels, nous le disions il y a quelques secondes, là, ce ne sont pas ceux qui réfléchissent le plus. Parce que ils n'ont pas à réfléchir nécessairement, vu que leurs dons sont exceptionnels. Donc pourquoi réfléchiraient-ils, quelque part? J'ai rencontré des professeurs remarquables qui avaient fait des carrières difficiles, qui avaient eu des moments de grandes difficultés, n'est-ce pas? Qui se sont remis en question. C'est ça qui est intéressant, c'est de se remettre en question toujours. Et même, je donnerais le conseil aux gens exceptionnels qu'ils se remettent aussi en question. parce que l'exceptionnel ne dure pas nécessairement ad vitam aeternam. Hein, c'est...
Jean-Philippe Lafont, justement, après cet accident l'année dernière à l'Opéra Bastille, donc il faut vous reconvertir. Vous avez donc maintenant accès aussi à un nouveau public, hein, ceux de vos possibles élèves, et parmi eux, un des plus inattendus probablement par l'intermédiaire de Roselyne Bachelot, c'est le candidat Emmanuel Macron. Vous le rencontrez la veille du fameux meeting de la Porte de Versailles, et tout le monde se souvient de sa voix justement au candidat Macron ce soir-là.
Maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
C'est incroyable l'effet que fait quand même ce discours. Tout le monde est en train de souffrir en l'écoutant, hein, véritablement. Alors vous l'aviez rencontré la veille.
Alors je voulais vous dire, par Roselyne Bachelot et aussi par Sylvain Faure, qui est le patron de Forum Opéra, qui est dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, qui est un homme exceptionnel, Sylvain Faure, d'intelligence, de culture.
Alors, quand vous entendez Macron, là, ce soir-là, à Versailles, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes catastrophé? Vous dites,
c'est pas possible. Je l'ai rencontré la veille. Oui. Je lui ai donné quelques conseils, comme je l'ai souvent dit. Et puis, j'ai dit, vous savez, la difficulté pour vous, ça va être d'assumer le seul contre des milliers, quoi. Vous allez voir devant vous des gens vociférer, et vous allez être attiré par cette vague d'enthousiasme, de brutalité quelque part. Il n'avait pas l'air d'être trop gêné. Non, ça va, il est formidable, il est plein d'enthousiasme, il est plein de jeunesse, il est plein de...
Sauf qu'il aurait pu perdre à cause de sa voix, non?
Ah, ben, je lui ai dit, il m'a téléphoné juste après, est-ce que j'ai tenu compte de vos conseils? Je lui ai dit, pas du tout.
Ah oui, c'était pas une bonne publicité pour vous, ce soir-là.
Ah ben non, j'avais une heure et demie la veille.
Mais il faut le préciser.
Je croyais qu'il allait me dire, bon, écoutez, vous êtes bien gentil, au revoir, merci. Et puis le lendemain, par sa secrétaire, il a pris contact avec moi, on a planifié des séances de travail, et puis il a eu cette intelligence formidable et cette humilité de reconnaître, bon, bah, que c'était un sujet qu'il ne connaissait pas nécessairement très bien, et que, voilà.
Il était important qu'il en tienne compte.
Oui, parce que je lui ai dit, si vous continuez comme ça, bientôt vous allez parler comme ça, et puis vous n'allez plus parler du tout. Et il a eu cette force de... C'est très bien qu'il ait commencé comme ça, parce qu'on voit la progression quand même.
Oui, puis là, il a commencé avec le pire, finalement. Hein. Il ne pouvait que s'améliorer après le meeting de la Porte de Versailles.
On ne pouvait pas aller plus bas.
Parce que là, c'était quand même
pas possible. Au plus haut, du moins. Mais non, ça a été formidable pour
lui. Jean-Philippe Lafont, pour terminer, quels sont les conseils à donner justement pour poser sa voix et faire en sorte que la voix ne devienne pas quelque chose comme ça de désagréable pour autrui aussi?
D'abord la colonne d'air, travailler le souffle, c'est primordial, c'est la base de tout, c'est la base de la vie. Hein. Donc ça, ça demande réflexion, ne pas parler trop vite, je dis des choses banales, hein. Ne surtout pas parler trop vite. D'abord avoir quelque chose à dire, sinon si on n'a rien à dire,
c'est un bon
mieux
début.
Se taire.
C'est un bon début, effectivement.
Et puis, par poser les mots, se servir de la ponctuation, se servir des silences, faire en sorte que les gens qui vous écoutent puissent se régénérer, se reprendre une énergie pour vous entendre, pour vous comprendre et pour vous répondre. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place dans cette architecture-là. Ouais. C'est assez passionnant,
je veux dire.
Et le chanter, le parler, c'est pareil, il faut le savoir.
Et ce titre vous va bien, avec voix et éloquence. Hein.
Très bien dit.
C'est aux éditions Larousse. Merci professeur, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons parler d'un travail étonnant, cette bande dessinée sur les quelques jours à vivre, justement, au sein d'une unité de soins palliatifs. «
Je suis rentré de Londres, Léo. Je suis revenu des ombres, Léo. Les heures étaient trop longues, Léo. Sans ta peau sous mes ongles, je ne t'ai pas attendu, Léo. Je sortais dans la rue, Léo, pour goûter d'autres corps, Léo. Mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Léo, j'ai pris le train de nuit. Léo, je suis venu ici. Oh, dis-moi quelque chose, Léo. Voudrais-tu quelques roses, Léo? Bien, nous serons grandioses, Léo. Yes, we could be heroes. Les garçons, c'est pas toi. Ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort.
Léo Holidays à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Xavier Bétoucourt, vous êtes le scénariste d'une bande dessinée atypique, son titre « Quelques jours à vivre », c'est aux éditions Delcourt, illustré par Olivier Perret, et donc cette bande dessinée s'intéresse à une unité de soins palliatifs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'embarquer dans un tel travail avec un lieu qui inspire plutôt l'angoisse et la tristesse?
Ben justement, dans un moment un moment de tristesse, en fait j'ai accompagné quelqu'un de ma famille dans un service, dans ce service de soins palliatifs.
À Roubaix,
oui. Ouais. Et c'est un moment compliqué, mais malgré ça, je voyais que autour de moi, moi j'étais comme tout le monde rempli de clichés, et c'était pas du tout ce que j'imaginais. À la base, je suis journaliste, donc j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se passait derrière.
Ouais. Il a fallu que vous embarquiez l'équipe aussi de cette unité.
Ça a été assez simple parce que en fait. Eux ont envie qu'on parle d'eux, parce que c'est pas simple pour eux d'en parler autour d'eux, à leur famille, de leur travail, de la difficulté aussi. Oui. Donc, c'était vraiment assez simple de leur proposer. Je suis allé voir, je leur ai dit, écoutez, voilà, je voudrais vous raconter. Est-ce que vous seriez d'accord? Et oui. Ils ont été d'accord.
Vous avez passé combien de temps auprès à la fois des équipes et puis des personnes qui mouraient aussi là,
oui,
dans cette unité?
Je suis resté entre un an et demi à peu près. Bon, évidemment, c'était pas tous les jours. Mais c'était, je venais très très régulièrement pendant plus d'un an. Oui.
Ouais. Donc c'était un vrai travail de reporter.
Oui.
Vous alliez sur place avec le dessinateur. Comment ça s'est
alors,
passé?
Alors Olivier n'est pas venu beaucoup parce qu'en fait c'était pas nécessaire. Ouais. Lui, ce qui était important, c'est qu'il voit les lieux, qu'il ressente les lieux, faire quelques photos. Et après, à partir de ça, il a travaillé en atelier. Donc c'était pas indispensable.
Ouais. C'est un statut tout à fait particulier hein, quand même, ces unités de soins palliatifs là.
Il y a une pierre angulaire. Enfin, pour moi là-dedans, c'est un docteur qui me dit une fois, on est là pour soigner, pas pour guérir. Et ça change tout. Et voilà, à partir de cette phrase-là, on peut comprendre tout le reste, en fait.
Ouais. Et comment elles sont perçues, ces unités, dans le corps médical en général? Parce que c'est ça aussi, c'est une plongée dans la réalité aussi de ces structures.
Bon, c'est obligatoirement un raccourci, ce que je vais dire, mais parce que ça dépend de chaque hôpital. Ce sont des lieux qui sont en général un peu mis sur le côté. On n'a pas spécialement envie d'aller y travailler. Mais en même temps, on reconnaît que c'est un travail indispensable et qui va devenir de plus en plus indispensable.
Ouais.
Maintenant, il y a les équipes mobiles qui vont dans les services classiques, entre guillemets, et qui vont s'occuper des gens qui sont dans des lits de soins palliatifs, mais à l'intérieur des services. Donc, il y a quand même une interaction. Et puis après, bon, voilà, quoi, il y a des problèmes. Ouais. Qui sont assez différentes d'un service à l'autre de toute façon.
Oui. Alors, une question de Jean-Philippe Lafont.
Oui, je me pose une question. Est-ce que ce n'est pas pour un médecin un peu, comment dire, réducteur, c'est peut-être pas le mot, mais de soigner, mais de ne pas guérir?
À la base, le médecin est là pour soigner et est là pour essayer de guérir. Mais oui. Ça marche pas à tous les coups.
Et voilà, c'est ça.
Voilà.
Et ça n'est pas, c'est pas difficile pour un médecin de ne jamais guérir, quoi.
En soins palliatifs, on ne guérit pas.
Oui, voilà,
on peut vivre beaucoup plus longtemps dans de bonnes conditions, mais on ne guérit pas. Non, à partir du moment où on a accepté l'idée de dire, nous, on va accompagner les gens, on va faire en sorte qu'ils aient une fin de vie douce, sereine, ça leur pose pas de soucis. Et ça pose même d'ailleurs un vrai problème. À notre question, parce que si on retourne la question, est-ce que peut-être le manque d'acceptation justement de la mort, ça induit pas l'acharnement thérapeutique qui a lieu malgré eux dans certains services.
Ouais. Avec toute la question de l'euthanasie, parce que là en plus Roubaix, vous êtes pas loin de la Belgique, donc c'est vraiment deux cultures différentes aussi par rapport à cette approche de la question. Hein.
Oui, et honnêtement, je pensais en parler beaucoup plus dans l'album, que ça va être quelque chose de beaucoup plus présent. Mm-hmm. Et en fait, pas du tout, et c'est logique. Évidemment, Roubaix, c'est à 6 km de la frontière, donc vraiment, c'est très simple, sauf que c'est pas si simple que ça d'aller en Belgique pour une euthanasie. Mais surtout dans le service, la philosophie du service fait que l'euthanasie ne pourra pas avoir lieu dans ce service-là. C'est pas possible. Le personnel soignant pense que c'est quelque chose qui va arriver dans notre société. C'est la logique des choses. Mais ce service-là est un service qui est fait pour accompagner la fin de vie, pas pour la provoquer. Mmh. Et ça change tout.
Ouais. Alors c'est vrai que
il y aura des progrès effectués dans les décennies, dans les siècles à venir, justement pour arriver plutôt à guérir qu'à soigner.
Oui.
On peut toujours penser que on va se rapprocher de la guérison.
Non, mais c'est évidemment, et c'est ça qui est toute la difficulté du moment des soins palliatifs, c'est que c'est un peu le couperet qui tombe. Lorsqu'on vous dit vous allez en soins palliatifs ou quelqu'un de votre famille va en soins palliatifs, on sait comment ça va se terminer.
D'ailleurs, vous décrivez très bien aussi la réaction des patients, des malades, des personnes en train de mourir, avec vraiment différentes façons de réagir face à ce couperet, précisément.
Oui, c'est très étonnant.
Il y a des gens qui se révoltent.
Il y a des gens qui se révoltent et il y a des gens. Et le premier matin où je suis là, et la réunion, on sort et on entre dans une chambre. La personne dit j'aimerais bien manger des pâtes à la sauce tomate et mourir dimanche. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était plus pratique, parce que cette personne-là acceptait parfaitement l'idée de mourir. C'était vraiment pas un souci pour elle. Et à contrario, il y a des gens qui luttent physiquement pour ne pas mourir, bien sûr. Mmh. Mais c'est autant de cas que d'êtres humains, en fait.
Ouais, Sybille Emery.
Non, j'ai aussi accompagné une personne en soins palliatifs et qui justement me disait que le plus dur pour elle était de savoir qu'elle n'allait pas en sortir, parce que c'est un décès qui a duré sur plusieurs mois suite d'un cancer. Et c'est vrai que c'est des endroits qui sont à la fois des endroits pleins de vie, mais en même temps, ce qui est assez curieux dans nos sociétés, qui sont des endroits qui sont un peu fermés, cachés, on cache la mort effectivement. Et à moins de connaître quelqu'un, c'est vrai qu'on n'y pénètre pas dans ces lieux. Et voilà, je crois que c'est vraiment des lieux qui sont très importants pour accompagner les personnes.
Et des lieux de chaleur aussi, parce que ça c'est vraiment aussi ce qu'on découvre finalement.
Est-ce que j'ai
découvert aussi ? On pourrait s'attendre à des endroits froids et tout à fait morbides, et vous décrivez la chaleur humaine, celle des soignants et avec les personnes qui sont là.
Non, ça c'était une vraie découverte. Évidemment, il y a toute cette chaleur, toute cette empathie, mais il y a des rires, il y a des moments où on rigole, où on se marre, mais pas seulement entre personnel soignant, mais aussi avec certains malades. Non, c'est vraiment un lieu plein de vie. Et par rapport justement à ce rapport qu'on a à la mort, j'essaye justement de mettre un peu en perspective et de montrer que ici ça se passe comme ça, il y a d'autres cultures où ça se passe pas du tout comme ça, où on l'accepte beaucoup plus simplement.
Ouais. Alors vous disiez d'un point de vue économique, pardon d'en parler, mais c'est vrai que ce sont des lieux qui sont pas du tout rentables.
Non.
Et il y a même l'exemple à Roubaix du service de garde qui conserve la chambre de la personne décédée pendant 48 heures pour permettre à la famille justement d'y aller.
Oui, alors c'est toute la problématique de l'hôpital et de ce que ça coûte. Effectivement, ça coûte cher parce qu'il y a plus de monde dans ce service par patient. Maintenant, la question est-ce qu'un hôpital doit être rentable ? Et quelle société on veut par rapport à ça ?
Ouais. Comment on s'embarque dans une aventure comme ça, une bande dessinée autour des soins palliatifs? C'était un document que vous aviez envie de proposer au
c'est
fond
pas le premier
un reportage
oui, c'est pas le premier documentaire que je fais en bande dessinée et je trouve que vraiment ce médium est extraordinaire. Il permet vraiment d'aller de manière simple dans des endroits où, je prends l'exemple, soins palliatifs, entrer dans une chambre avec une caméra ou alors avec un agra,
c'est très intrusif.
Alors que là, moi j'y allais avec un papier, un crayon, point. J'ai jamais mis de blouse blanche pour faire croire que je faisais partie de l'équipe. Non, ça permet vraiment d'être présent de manière assez simple et justement éviter cette intrusion auprès de personnes qui sont là pour le coup dans des situations pas simples.
Ouais, c'est un ouvrage très touchant évidemment qui brasse beaucoup hein, parce qu'on est vraiment pris entre différentes émotions hein, entre à la fois des rires pourquoi pas et puis des choses extrêmement tristes.
Donc c'est la vie. Hein.
C'est ça aussi que vous avez réussi à créer, à recréer avec ce travail.
Merci beaucoup.
Voilà, ça s'appelle Quelques jours à vivre. C'est aux éditions Delcourt. Xavier Bétaucourt, vous avez donc signé le scénario.
Oui.
Et les dessins sont d'Olivier Perret. Voilà. Vous restez avec nous. Dans un instant, on parle de musique et d'antiquité. Sun is rising. Otsuki à l'instant.
La tête au carré.
Dernier invité de ce club, Sybille Emery. Vous êtes égyptologue, chercheur au CNRS, au laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques et l'une des 8 commissaires de cette exposition Musique Écho de l'Antiquité qui est à voir jusqu'au 15 janvier au musée du Louvre-Lens. Je sais que votre voisin de table, Xavier Bétaucourt, a vu l'exposition d'ailleurs la semaine dernière et que peut-être notre chanteur lyrique Jean-Philippe Lapon ira voir parce qu'on peut y entendre le plus vieux chant du monde. On en aura un extrait dans un instant, Jean-Philippe Lapon. On aura évidemment...
Certaines. Absolument.
Envie de savoir ce que vous en pensez. Oui. Une véritable machine à remonter le temps pour cette exposition Sibylle Emery, puisque vous allez jusque dans ces musiques très lointaines pour en reconstituer à la fois les sons et les instruments.
On compare quatre civilisations, l'Égypte, l'Orient ancien, le monde grec et le monde romain. Donc effectivement, on couvre une chronologie très vaste du 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ouais.
Comment vous avez procédé pour monter cette exposition qui est assez inédite
Alors, c'est une exposition totalement inédite en son genre.
Inédite, pas inaudible.
Inédite, tout à fait. Tout d'abord, elle s'appuie sur un programme de recherche qui est commun à trois écoles françaises à l'étranger. L'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'école française d'Athènes et l'école française de Rome. Et on a décidé de travailler sur la musique de l'Antiquité en considérant en fait le son dans sa globalité. Ça rejoint un peu les travaux sur l'histoire du sensible d'Alain Corbin, etc. C'est qu'est-ce que les anciens percevaient, comment ils percevaient les sons, comment ils les utilisaient au quotidien, et quels sont effectivement tous les usages qu'on peut découvrir autour des sons. Et l'idée de comparer ces sociétés anciennes, c'était justement de voir les interprétations différentes. Et en tant que public, on se dit toujours, mais on ne peut pas entendre les musiques de l'Antiquité, puisque évidemment, ce sont des patrimoines sonores qui ont disparu, qui sont morts.
Il n'y a pas de partition.
Alors, s'il y a des partitions pour le monde grec et pour la Mésopotamie, partition, c'est un grand mot.
C'est-à-dire...
Il y a des notations musicales. Donc, toutes les difficultés de les interpréter. Et surtout, ce qu'on voulait montrer au public, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à cet aspect-là. Effectivement, on ne pourrait pas non plus réduire la musique occidentale à quelques airs de musique, parce que finalement, on a environ 100 partitions grecques, et la plupart sont extrêmement fragmentaires, avec 2-3 notes, donc c'est vraiment rien du tout. Mais en revanche, la musique laisse beaucoup de traces archéologiques, que ce soit à travers les instruments de musique, que ce soit à travers les images. Vous avez énormément de scènes de musiciens que vous verrez dans l'exposition, qui vous interpellent par rapport à leurs gestes, par rapport au lieu où ils jouent. Et vous avez aussi des textes qui nous renseignent sur la place de cette musique, sur le statut social des musiciens, sur quelle... la manière dont on l'utilisait au quotidien, et on se rend compte que cette musique était omniprésente.
Alors c'est ça, oui, la musique était vraiment là tout le temps pendant l'Antiquité.
La musique était omniprésente puisqu'on ne conçoit pas, en fait, un rassemblement politique aura lieu en musique, un geste religieux, et la musique est nécessaire. La guerre, la musique est nécessaire, la mort est accompagnée en musique, la musique est partout. Alors après, la manière d'utiliser ces instruments varie selon les sociétés, mais vous avez aussi des instruments qui vont passer d'une société à une autre. C'est tout cet aspect-là qu'on a voulu montrer. Et vous avez un parcours thématique qui montre, par exemple, on commence par l'oreille des dieux. On présente justement les dieux qui sont considérés comme inventeurs de la musique dans le monde grec et dans le monde romain, ce qui n'est pas le cas de l'Égypte ancienne. Et ensuite, la manière dont la musique est utilisée pour vénérer les dieux.
Alors, quels sont les instruments qui s'y rattachent justement à la vénération des dieux et qu'on peut voir à l'occasion de l'exposition ?
Alors, vous avez plusieurs instruments de musique de l'Égypte ancienne, dont la harpe. Mmh. C'est vrai que, comme vous le savez, le climat de l'Égypte a permis de conserver des objets très fragiles, comme le bois, des matériaux organiques, comme des fibres, comme aussi des peaux. Et vous verrez, par exemple, dans l'exposition, il y a 4 harpes, dont une qui est rentrée au Louvre en 1826, qui a été achetée par Champollion, qui est couverte d'une peau d'animal, qui est toujours conservée.
Alors, on va écouter, justement, une harpe égyptienne. Alors, l'instrument existe. Il a quel âge à peu près ?
Il a environ 1500 ans avant Jésus-Christ, donc 3500 ans par rapport à aujourd'hui.
Et cette mélodie que nous entendons ?
Alors, la mélodie, là, c'est toujours la difficulté du sujet. Pour l'Égypte ancienne, on n'a pas de notation musicale, ce qui n'empêche pas de s'intéresser aux instruments de musique eux-mêmes. En fait, à l'origine de cette exposition, il y a cette harpe que vous venez d'entendre, qui a été découverte récemment par une équipe allemande à Louxor, avec laquelle je travaille. Et j'étais tellement impressionnée en tant que chercheur qu'on me livre un instrument de musique en bois.
En très bon état,
très bon état, qui mesure 1 mètre... une seule pièce de bois avec sa caisse de résonance et la peau qui la recouvre préservée à 80%.
Mais elle était où cette harpe alors ?
Dans des tombes en fait, dans des puits funéraires. Ils en ont trouvé 3 en tout, dont une vraiment très très bien conservée. Tellement bien conservée qu'on a souhaité en faire une copie. Et en fait, la copie nous apprend beaucoup puisque vous rentrez dans l'idée de l'artisanat, la manière dont la personne a conçu l'objet, la manière dont il le fait sonner.
Xavier Bétoucourt, elle est belle cette harpe alors ?
Ah oui, magnifique.
parce que c'est vraiment l'objet, l'objet clé hein, de cette exposition. Il y en a beaucoup.
Il y a plein de clés. C'est une exposition, bon, je l'ai vue samedi dernier, qui est absolument, qui est vraiment incroyable, en fait. Hein, et ce qui est vraiment étonnant, c'est que on se rend compte, effectivement, il y a toujours eu de la musique, mais il y a toujours eu un désir chez l'homme de représenter la musique au-delà du son. Et c'est le principe même de l'art, à la base, de dire on va représenter une émotion. C'est assez étonnant, ça. C'est assez marquant quand on remonte aussi loin.
Sybille Emery.
Oui, tout à fait. On a des représentations musicales dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, que ce soit en Orient ou en Égypte. Alors, bien antérieure, hein, on en a aussi à la préhistoire. On n'est pas remonté aussi loin, puisqu'on voulait quand même cerner le sujet par rapport à des cultures qui se sont fréquentées à des périodes de leur histoire et qui ont échangé également au niveau de la musique.
Justement. Alors, pour notre baryton Jean-Philippe Lafont, justement, à l'époque, on n'avait pas de partition. Alors, sur quoi est-ce qu'on inscrivait, en tout cas, les notes?
Alors, pour l'Orient ancien, on a les tablettes cunéiformes qui sont en terre cuite. L'hymne ougarite, justement, est préservé, est au musée de Damas. Hein, l'hymne, en fait, non, c'est une copie qui est présentée à l'exposition. Pour les raisons que vous comprendrez, on n'a pas pu emprunter l'original. Mais la copie est exacte puisqu'elle a été faite par le découvreur lui-même.
La copie de la tablette d'argile.
Pour le monde grec, on a aussi des inscriptions sur des monuments, à Delphes en particulier. Mais on a aussi énormément de partitions sur papyrus qui ont été trouvées en Égypte. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont été trouvés en Égypte que c'est de la musique égyptienne. Oui. C'est vraiment de culture grecque.
Alors, on va écouter le plus vieux chant du monde, Jean-Philippe Lafont, quand même, vieux de 3800 ans. C'est donc cet hymne mésopotamien d'Ugarite. Alors, on l'écoute et on le commente ensemble juste après.
Κουδουρνίτα σακίλα τσίλι σύπρι, ουμαρουχά του αρι, ουμαρουχά του αρι.
Voilà, Sybille Emery, on va le commenter, on va laisser cette voix évidemment sous vos propos. 3800 ans, on considère donc pour l'instant que c'est le plus vieux chant du monde.
Oui, c'est une des plus anciennes attestations, c'est-à-dire que sur cette tablette, on a le morceau, enfin le chant qui est une demande pour avoir un enfant de la part d'une femme qui est gravée au-dessus, et en dessous, sous deux lignes, vous avez des indications sur les modes qui sont employés. Alors, on est très loin encore.
Pourquoi c'est une voix d'homme, alors justement, que vous avez choisi?
C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est l'interprétation. En fait, c'est une équipe à New York qui a travaillé, a retravaillé sur ce texte récemment et qui nous a proposé cette interprétation qu'on a trouvé. En fait, le public veut entendre des choses.
Bien sûr.
Mais on le sait à quel point la voix humaine est importante. Hein, dans le chant, elle est essentielle, ne serait-ce que l'accentuation, la manière de chanter, voix ordinaire, voix d'opéra, justement. Donc, toujours quand on fait écouter ces chants, moi je mets beaucoup de précautions oratoires. Évidemment, on a envie de les entendre. Évidemment, on a des indications. Normalement, on pourrait même le jouer sur un instrument de musique, mais on n'a pas forcément la harpe qui va avec. Néanmoins, évidemment, c'est une manière de toucher hein, à ces sonorités lointaines que d'essayer d'interpréter cette tablette qui, depuis sa découverte en 1950, a fait couler beaucoup d'encre et a amené vraiment beaucoup de chercheurs à travailler dessus.
Jean-Philippe Lafont, alors... J'aimerais avoir votre impression quand même, parce qu'on touche aux racines de votre art là quand même.
Ce que je viens d'entendre me touche beaucoup, pas par l'extension de la voix, parce qu'il y a trois notes, mais par l'importance du mot. Moi j'entends quelqu'un qui chante les mots, le mot. Si, je pense, je ne comprends rien à ce que j'ai entendu, bien évidemment. Mais il me semble que la personne qui chante, qui dit le mot, a beaucoup de choses à dire.
Mais et c'est cette histoire que vous racontiez, finalement.
Avec une telle sensibilité, quelque part, c'est émouvant ce qu'on vient d'entendre. Et moi, je voudrais vous demander, madame, une chose. Est-ce qu'il y a dans votre exposition, dans votre travail, grâce ou à cause de techniques nouvelles, des instruments ou des façons de chanter interdites pour quelque raison que ce soit, est-ce que l'évolution s'est faite par obligation de ne pas ou de ne plus faire ou de ne plus dire ou de ne plus chanter, l'évolution des instruments et de la façon de chanter, est-ce qu'elle a été toujours aussi bien acceptée, ou est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit non, ça on chante pas si, comme on fait aujourd'hui hein. En Corée du Nord par exemple, il est interdit de chanter le répertoire d'opéra par exemple.
Sylvie Demery.
Alors déjà, ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'on connaît de l'Antiquité, la voix est essentielle, effectivement, et l'instrument de musique est souvent là pour accompagner la voix. Ensuite, on a effectivement des textes normatifs, en particulier pour le culte d'Osiris, qui est le dieu des morts, et on a un texte qui nous dit qu'il est interdit de chanter et de jouer d'un certain nombre d'instruments au moment de ses funérailles. Donc oui, on a des éléments qui nous permettent de savoir que selon les périodes de l'année, la voix est le chant est interdit ou pas.
Sybille Emery, pour terminer. On va entendre du ou de la cornue d'ailleurs.
Du
cornu, voilà. Alors qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une trompette romaine qui a été trouvée à Pompéi, qui est parfaitement conservée hein, grâce au Vésuve. 5 trompettes de ce type ont été découvertes à cet endroit. Le musée de Naples nous a prêté l'une d'elles, sur laquelle a travaillé une équipe de chercheurs au sein du programme de recherche dont j'ai parlé, et qui a permis d'aboutir à cette reconstitution virtuelle.
Ça, c'est un travail avec l'IRCAM, justement,
que
vous avez mené.
C'est un travail avec l'IRCAM, puisque l'instrument mesure 3,90 m, il est très grande taille, donc on en a proposé une modélisation par informatique et pas de passer par une copie
réelle. On s'en servait
réelle.
À quelle occasion, à Pompéi, par exemple, de cet instrument, à l'époque?
Alors, on servait, par exemple, dans la gladiature, pour les jeux du cirque, que pour appeler, rassembler les personnes. Vraiment, les cornues sont des instruments qui, dans la vie civique, avaient un rôle essentiel dans la ville.
Voilà, on y est. Grâce à vous, on est à Pompéi. Et c'est le cas pour beaucoup d'instruments qui vont nous faire voyager à l'occasion de cette exposition Musique Écho de l'Antiquité. On a jusqu'au 15 janvier prochain pour aller voir cette exposition au musée du Louvre, Lens. Et vous pourrez apprécier exactement comme notre invité Xavier Bétaucourt qui y est allé la semaine dernière. Merci à vous. Jean-Philippe Lafont, ce livre, donc, avec voix et éloquence, c'est aux éditions Larousse, et puis cette bande dessinée Quelques jours à vivre, que nous avons également évoqué dans ce club, aux éditions Delcourt, et que vous signez Xavier Bétaucourt. Merci beaucoup à tous les trois, passez un très bon week-end. C'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Serge Viguier, Élise Christophe qui était à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission, et lundi nous parlerons des mammifères.